J'ai appris que le thème ce matin, c'est l'amour. Mais le titre de mon message est « Les haïsseurs de Dieu, God haters ». Ça va bien. Ça commence un peu raide le message, mais ça va bien terminer. Et même si c'est inattendu que je sois là ce matin, dû à l'absence de Pasteur Claude, pour les raisons que vous connaissez, le décès de sa mère, alors même si c'est inattendu et pour une raison triste, il me fait plaisir encore d'ajouter ma voix à cette série sur l'Évangile de Jean qui lance une invitation, et tous et chacun de nous, à retourner à la source, à retourner à la parole, à la simplicité de l'Évangile, de retourner à Jésus et aussi de retourner à la croix, qui est l'objet de notre attention ce matin, car Jean nous donne une des meilleures descriptions de la croix dans toute la Bible. Et selon moi, les événements associés à la croix, la personne sur la croix, les personnes autour de la croix nous parlent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et la croix mérite encore notre attention aujourd'hui, car elle communique non seulement la magnificence de Dieu, l'amour incomparable de Jésus, mais je crois que la croix et les événements autour de la croix nous donnent un portrait de la nature humaine qui n'a pas changé depuis 2000 ans, ainsi qu'un portrait du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2017. Alors ce matin, nous allons jeter un regard sur la crucifixion de Jésus, comme décrit par Jean et les autres évangiles, mais avec un regard plus particulier sur les personnes présentes à la crucifixion, ceux qui ont été témoins de la crucifixion, ceux qui ont participé à la crucifixion. Alors imaginons avec moi la scène. Jésus est pendu sur la croix entre deux criminels. Son corps plein de sueur, de sang, de poussière, symbole de la souffrance et du sacrifice, emblème de l'amour infini. Et au pied de la croix, il y a des spectateurs. Il y a sa mère, il y a Jean, il y a un ou deux amis et croyants, mais il y a aussi au pied de la croix des soldats, des chefs religieux, des scribes, des curieux, des personnes qui regardent de près et qui observent. Des personnes qui jouent pour sa robe, des moqueurs, des personnes qui lancent des insultes, des personnes qui rient, des personnes qui crachent sur lui. Et moi, je crois que l'ensemble de cette scène nous donne un portrait de la nature humaine et aussi un portrait du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2017. Et en parlant du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons naïfs en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement rempli de gens innocents qui n'ont tout simplement pas eu le privilège d'entendre et comprendre l'Évangile et d'expérimenter l'amour de Dieu. Comme s'ils seront tous sauvés s'ils pourront seulement entendre et comprendre la grâce de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Le monde n'est pas seulement rempli de personnes perdues, tristes, brisées et mûres pour être pardonnées et connaître la bonté de Dieu et le salut offert par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement entourés de personnes innocentes, dignes de nos sympathies et de notre compassion, car la seule chose qui les garde dans leur état est leur ignorance de l'Évangile et le pardon offert par Dieu au nom de son Fils Jésus. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Nous ne vivons pas dans un monde uniquement rempli de personnes innocentes et ignorantes et qui ont tout simplement besoin d'entendre le message de l'Évangile, être touchés par Jésus, rencontrer Dieu et expérimenter son amour comme nous l'avons fait. Est-ce qu'il existe des personnes comme ça? Oui, certainement. Mais il existe aussi dans le monde aujourd'hui des personnes qui détestent Dieu. Des haïsseurs de Dieu, God haters, nous disons en anglais. Ça, c'est une expression biblique qu'on n'entend pas souvent aujourd'hui, mais qu'on retrouve partout dans les Écritures. Je vais vous donner quelques exemples. Exode 20. L'Éternel, ton Dieu, punit l'iniquité jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome 7. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'au millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui l'haïssent et le fait périr. Il ne défaille point envers celui qui le haït. Il use directement de représailles. Alors, depuis toujours, il existe dans le monde des personnes qui aiment Dieu, mais il existe aussi dans le monde des personnes qui haïssent Dieu, des personnes qui détestent Dieu. Deuxième chronique, J'ai eu le prophète dit au roi Josaphat, « Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? » À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Le psaume 81, « Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. L'Éternel ne rejette pas la haine pour ceux qui te haïssent. » Jésus lui-même, en Jean 7:7, il dit, « Le monde me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Évidemment, ceux qui ont la haine de Dieu et qui détestent le Père, le Fils et le Saint-Esprit détestent aussi tous ceux que Dieu représente et tous ceux qui représentent Dieu. Ces personnes haïssent même la possibilité que Dieu existe. Ils détestent juste l'idée d'un Dieu créateur. Et pour cette même raison, ils haïssent la Bible. Parce que dans la Bible, on retrouve non seulement l'histoire de Dieu, mais comme vous savez, dans la Bible, nous retrouvons aussi les commandements de Dieu. On trouve une code moral, ainsi que la description des actions requises et des actions proscrites. Ces gens détestent l'idée que Dieu décide notre genre et qu'il s'impose sur notre liberté de choisir si un enfant va vivre ou pas dans le sein de sa mère. Ils détestent l'idée que Dieu impose des règlements sur ce que nous faisons avec notre corps et avec notre sexualité. Je vous donne quelques exemples des athées renommés. La sensation de liberté qui vient du fait de rejeter l'idée de Dieu en tant qu'être surnaturel est énorme. On aspirait à la libération d'un certain système de moralité, car celle-ci entravait notre liberté sexuelle. Alors, des personnes comme lui détestent l'idée de redevabilité et la possibilité que nous sommes responsables pour nos bonnes actions et coupables de nos mauvaises. D'autres exemples, Richard Dawkins. Très souvent, les gens choisissent de ne pas croire en Dieu pour pouvoir jouir d'une vie remplie et satisfaisante. En fait, pour pouvoir être libérés. Le darwinisme, c'est l'histoire de la libération de l'humanité, la libération de l'illusion que sa destinée est contrôlée par une autorité plus grande que soi-même. Toutes les religions sont pareilles. C'est essentiellement la culpabilité, mais les fêtes sont différentes. Dan Parker, je suis beaucoup plus heureux maintenant comme athée, délivré de la culpabilité. Francis Crick, j'admets que c'est mon engagement envers le matérialisme qui motive mon hostilité envers la religion. Steve Pinker, le problème avec l'homo sapiens n'est pas que nous manquions de moralité, le problème est que nous en avons trop. Alors, ces quelques personnes représentent tous ceux dans le monde aujourd'hui qui haïssent l'autorité divine, la redevabilité, l'idée d'un jour de jugement et surtout la possibilité d'une punition éternelle, l'enfer. Ces personnes détestent l'Église, détestent Israël, ils détestent les chrétiens, ils détestent les suiveurs de Christ, dont vous et moi. Êtes-vous heureux d'être là ce matin? L'atmosphère a changé tout d'un coup. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, « Mais Pasteur Mark, vous exagérez. » Ou est-ce que Jésus exagérait aussi? Matthieu 10, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Vous allez être haïs. Il va y avoir des gens qui rejettent votre témoignage. Il va y avoir la persécution, ridicule, moquerie. Mais la personne qui demeure fidèle et qui persévère jusqu'à la fin, malgré l'opposition, sera sauvée. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Jésus ne peut pas être plus clair que ça. Vous serez haïs de tous. C'est Jésus qui dit ça, pas Pasteur Marc. Jean 15. Celui qui m'haït, haït aussi mon Père. Et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Un petit peu plus tard, en 1er Jean, il dit, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. » Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le grec original, le mot haït veut dire « haït ». Hate. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Qui est une autre façon de dire, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas surpris, ne soyez pas ébranlés, ni découragés quand les gens rejettent votre témoignage, quand les gens vous ridiculisent, quand ils attaquent votre foi et vos croyances, quand ils vous insultent avec des paroles blessantes, ainsi que le Christ que vous aimez de tout votre cœur. Car il existe dans le monde des personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu, ni être pardonnées de Dieu. qui ne veut rien savoir de l'Évangile, ni la grâce de Dieu, ni la vérité de la parole. C'est des personnes qui choisissent de bloquer leurs oreilles et jouer aux sourds quand ils entendent parler de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent croire un mensonge que faire face à la vérité. Jésus le décrit de cette façon, Matthieu 13. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur. Remarquez qu'est-ce qu'il dit. Ils ferment leurs oreilles et leurs yeux de peur. Ou peur de quoi? Qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ils ne veulent même pas que leurs péchés soient pardonnés. Mais heureux sont vous parce qu'ils voient, parce que vos yeux, parce qu'ils voient et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Combien sont heureux pour le grand privilège que nous avons ce matin d'avoir vu, entendu, compris et changé. Merci Seigneur pour cette grâce. Commande une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour la grâce que nous avons d'avoir vu, entendu et compris. Heureux êtes-vous, Jésus dit. Mais les autres, ils refusent de peur. C'est Jésus qui dit, ils ont peur de quelque chose. Peur de quoi? Ils refusent parce qu'ils ont peur du changement. Ils ont peur des exigences de l'Évangile. Ils ont peur de céder contrôle de leur vie et leur destinée entre les mains de Dieu. Ils ont peur d'abandonner leurs habitudes et leur style de vie. Et ils ont peur de faire face à la vérité. Et si vous ne croyez pas, croyez Jésus. Jean chapitre 3, un des versets les plus renommés dans toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La simplicité de l'Évangile. Quelle bonne nouvelle! Dieu aime le monde. Dieu a donné son Fils. Nous avons rien qu'à croire en Jésus et nous pouvons avoir la vie éternelle. Le merveille de l'Évangile. Quelle bonne nouvelle! Mais les gens refusent quand même. Les gens refusent de croire quand même. Et Jésus donne la raison. Quand on voit la simplicité de l'Évangile, on pourrait dire, mais pourquoi ne pas croire? C'est tellement merveilleux. Dieu nous aime. Dieu a donné son Fils. Nous n'avons rien qu'à croire et nous avons la promesse de la vie éternelle. Mais il y a une masse de personnes qui refusent de croire quand même. Mais Jésus continue. Souvent, on laisse ce verset-là tout seul, isolé. Mais Jésus, par la suite, nous donne la réponse. Pourquoi? Que malgré le merveille de l'Évangile et la bonne nouvelle, les gens refusent de croire. Il continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, encore une autre bonne nouvelle, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Yes! Celui qui croit en lui n'est point jugé. Yeah! Wow! Il continue avec les bonnes nouvelles. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, puis là, il donne la raison pourquoi les gens ne croient pas. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Préférence, volonté, c'est pas l'ignorance, c'est la volonté. Jésus dit les gens ne veulent pas croire une si bonne nouvelle parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Car quiconque fait le mal haït, puis encore on voit le monde haït, déteste la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur, encore il sert du mot de peur, que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est Jésus qui dit ça. Il nous donne la raison pour laquelle. Peur. Crainte, haine, déteste. Je me souviens d'avoir témoigné à quelqu'un une fois avec mon épouse qui, après un certain temps, m'a demandé d'arrêter. Arrêtez, arrêtez. J'ai demandé pourquoi. Puis elle a répondu encore que c'est vrai. Ça a l'air trop vrai. Il ne faut pas que ça soit vrai parce que ça va me coûter trop cher. En plus, il existe aussi des personnes qui font plus que seulement résister le message de l'Évangile ou bloquer leurs oreilles ou refuser de croire. Il existe aussi dans le monde des personnes qui attaquent le message. Comme qu'ils ont attaqué Jésus il y a 2000 ans. Marc 3, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Le mot anglais ici, c'est « destroy him ». Ils se mettaient ensemble pour dire comment qu'on peut détruire Jésus. On n'aime pas ses paroles, on n'aime pas sa présence, on n'aime pas ce qu'il représente, on n'aime pas son existence. On veut détruire Jésus comme certaines personnes aujourd'hui. Rien n'a changé. Matthieu 26. Comme Jésus parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Aujourd'hui, on n'attaque pas Jésus avec des épées et des bâtons physiques, mais plutôt verbales et écrites, avec des paroles pour écraser et détruire Christ et tout ce qu'il représente. Aujourd'hui, ces personnes attaquent Dieu, Jésus, l'Église, la Bible, la création, Israël, avec des mensonges, avec des accusations, avec des faux faits scientifiques, avec le ridicule, la condescendance et la moquerie. Je ne sais pas si vous avez lu le mois d'août dernier, il y a juste quelques semaines, dans le courrier du Sud qu'on reçoit partout sur la rive sud ici, il y avait un chroniqueur qui a écrit une chronique qui appelait « Super-héros des religions ». Puis le chroniqueur, dans cet article, il manifeste son ignorance massive par rapport à la documentation crédible et historique pour Christ, ainsi que pour la résurrection. Il manifeste aussi son mépris du christianisme et toute autre forme de croyance religieuse. Et dans la chronique, il supplie les parents d'arrêter d'enseigner la religion à leurs enfants. Il compare l'histoire de Jésus aux histoires de Superman et Thor. Et il dit ceci, voici, je cite la chronique, juste dernièrement. « Pour une vivre ensemble des plus harmonieux possibles, faudrait au nom du droit des enfants qu'on refuse qu'on leur boude le crâne avec des histoires de Jésus ressuscité des morts, Moïse qui sépare la mer en deux, des histoires fantastiques et fantastiques du même calibre que Cendrillon ou la chasse-galerie. » Imaginez. Il balaie à côté la croyance des milliards de personnes. Pourquoi laissons-nous encore les religions endoctriner les plus bas âges des enfants vulnérables pour qu'une fois adultes, ils croient encore au pouvoir magique de Jésus comme l'endoctrinement des jeunesses hitlériennes qui rendu adultes, on croyait fermement que notre race était supérieure. Imaginez. Il compare les histoires de Jésus. Quelle massive ignorance de crédibilité historique de Jésus, les miracles de Jésus, la résurrection de Jésus, et comparer les histoires de Jésus à des histoires de Cendrillon et des fables et des mythes et à Superman. Et ça, c'est juste dernièrement, ça. Juste comme ça. Condescendance, moquerie. J'apprécie et je suis reconnaissant pour la réplique respectueuse d'un agent pastoral qui est répliqué la semaine suivante. Répliquer un peu à son article ici, et j'apprécie son effort et son point. Mais elle disait qu'il faut, elle répliquait cet agent pastoral à ce qu'elle dit en disant, ben c'est parce que vous prenez ces histoires-là d'une façon littérale. Il ne faut pas lire la Bible d'une façon littérale. Il faut juste découvrir le sens intérieur, le sens spirituel de ces histoires. Alors elle dit, j'ai appris d'aborder le langage religieux au niveau où il doit comprendre pour y travailler, pour trouver un sens caché à première vue. C'est en apprenant à aborder ces textes de l'intérieur que j'ai trouvé la clé de lecture qui donne accès à la nourriture spirituelle qui contient, c'est-à-dire la vérité intérieure. Quand on parle de Jésus marcher sur les eaux, il ne faut pas le croire littéralement ou quand il étend la main à Pierre. C'est juste pour découvrir le sens intérieur d'une source d'espérance dans l'épreuve. Enseigne à nos enfants, non pas ces histoires d'une façon littéral, mais juste plutôt qu'il peut trouver dans ses traditions religieuses et spirituelles la nourriture intérieure. J'apprécie sa réplique et j'apprécie et je suis reconnaissant pour la réplique respectueuse de cette personne-là et je comprends son point. Mais quelque chose qu'il faut comprendre, les disciples n'ont pas souffert et donné leur vie comme martyrs pour la signification symbolique de la résurrection de Jésus et pour la façon qu'elle nous aide dans notre fort intérieur. Ils l'ont fait parce que Jésus est ressuscité. Il a marché sur les eaux. Il a fait des miracles. Ils l'ont fait pour la vérité, non pour un sens de la vérité. La résurrection... Ils ont donné leur vie parce que la résurrection est un fait historique et non pas une leçon allégorique. Et ça vaut la peine de répéter. La naissance, la vie, les miracles et la résurrection de Jésus sont des faits historiques et non pas des leçons allégoriques. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Jésus est ressuscité. Soyons alertes. Les gens qui s'approchent de Jésus avec des épées et des bâtons sont encore là et on les reconnaît par leurs fruits et par leurs paroles. Et comme nous découvrons quand on lit le récit de la croix dans les évangiles, des haïsseurs de Dieu prennent plusieurs formes et s'expriment de diverses manières. Quelques-uns par la violence et la persécution physique, moins connu ici au Québec, mais pas dans plusieurs pays de la Terre. Selon l'organisme Open Door, une moyenne de 322 chrétiens sont martyrisés à chaque jour, donnent leur vie à chaque jour pour la foi chrétienne, souvent d'une façon atroce et presque personne n'en parle. So oui, aujourd'hui, il existe dans le monde des gens qui attaquent la foi et attaquent les chrétiens et attaquent Jésus d'une façon physique et violente, mais d'autres attaquent par la moquerie. Puis ça, on est plus conscient de ça et habitué à ça ici au Québec. Ils attaquent par la moquerie, comme à la croix. Les passants l'injuraient, ils l'insultaient, ils secouaient la tête à Jésus qui est pendu sur la croix. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Semblable à la moquerie et à la condescendance si évidente aujourd'hui, les comédiens, les comédiennes, les commentateurs, les animateurs, les chroniqueurs, les professeurs, rien n'a changé. Ils n'ont aucun argument intellectuel, alors ils ridiculisent, ils se moquent, souvent d'une façon vulgaire et avec un langage profane. Et parfois, on se demande comment c'est possible de parler de Jésus et la foi de cette façon, sans aucune trace de la crainte de Dieu. C'est vulgaire, c'est sale, c'est méprisante. Aucune trace de la crainte de Dieu. Mais la réponse est simple. Ils sont des haïsseurs de Dieu. They're God haters. Non seulement qu'ils ne craignent pas Dieu, ils le détestent. Rien n'a changé. C'est une attitude qu'on retrouve parfois même parmi les supposés érudits et théologiens et personnes religieuses. Remarque encore à la croix, il y avait aussi des principaux sacrificateurs, des personnes religieuses, des scribes, les anciens, et eux aussi se moquaient de Jésus. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, et s'il aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » L'incrédulité et la moquerie chez les chefs religieux, chez les anciens, chez les docteurs de la loi, est particulièrement remarquable, car ils auront dû savoir mieux. Ces personnes auraient dû comprendre ce que la loi et les prophètes ont enseigné et annoncé par rapport à Jésus. Mais malgré leur connaissance, ils ont préféré de préserver leur religion, leur poste, leur pouvoir et à vivre dans l'incrédulité et à joindre leur voix à la masse populaire, aux autres incrédules, moqueurs et haïsseurs de Dieu. Puis ces personnes me font penser à quelques docteurs de la loi contemporains. Les supposés théologiens et érudits en sciences religieuses qui, 2000 ans après le fait, questionnent la véracité de presque tout ce qui est écrit dans ce livre. Les personnes qui sèment le doute et traitent des faits historiques et crédibles de la Bible comme des mythes, des légendes ou des fables. Ces supposés docteurs, théologiens et docteurs en religion, soit que j'ai lu, soit que j'ai entendu ou même rencontré. Ils parlent et agissent comme des agnostiques ou des athées, mais ils gardent quand même leur titre de professeur en théologie biblique et enseignent la Bible comme si elle est composée de fables culturelles. Une absurdité. Mais je crois que ces personnes sont bien décrites ici par Jude, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent par aimant leur chair, méprisent l'autorité, injurent les gloires. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Combien sont heureux pour les écrivains de la Bible qui n'ont pas toujours été politiquement corrects? On n'a pas demandé à Jude « qu'est-ce que tu penses? » de ces personnes. En 2017, Jésus est encore attaqué parfois par la violence, mais souvent par la moquerie, la ridicule, par le mensonge proféré par des faux théologiens et professeurs de la Bible. Des attitudes et des réalités qu'on trouve à la croix, mais qu'on retrouve partout aujourd'hui. Ainsi que l'aveuglement et l'arrogance démesurée. On trouve ça aussi à la croix. Luc 23, l'une des criminels, l'une des malfaiteurs, crucifiée, l'injurait aussi en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi-même et sauve-nous! » C'est presque comique. Lui, il a pendu sur la croix, pense qu'il est bien placé pour rire de Jésus et lui lancer des insultes. Quelle arrogance, quel aveuglement de sa propre condition! Mais lui me fait penser à la personne aujourd'hui qui avec une vie tout croche, entièrement dysfonctionnel et en morceaux, mais qui refuse de croire quand même. Il refuse d'étendre une main vers Dieu malgré sa situation, comme si elle préfère vivre dans son état de misère et malheur que donner une chance à Jésus. C'est une décision qui nous fait gratter la tête parfois, mais nous connaissons tous des personnes comme ça, oui ou non. Des personnes entièrement dysfonctionnelles, la vie tout en morceaux, mais ils refusent quand même l'Évangile, ils refusent de donner une chance à Dieu, ils refusent de donner une chance à Jésus, et même ils vont embarquer dans les insultes et le rejet et de se moquer de Jésus malgré leur état. Puis on gratte la tête, on dit comment ça se fait? Well, ça existe depuis toujours. Rien n'a changé en 2000 ans. Criminel sur la croix, il se moque de Jésus. Mais peu importe quelle forme les dénigreurs de l'Évangile prennent ou quels moyens les haïsseurs de Dieu prennent pour attaquer le mensonge, la moquerie ou le mépris, que ce soit des chroniqueurs, des professeurs, des animateurs, des commentateurs, que ce soit par les ondes de la radio qui profèrent leur mépris et leur mensonge, ou par la télévision, ou en salle de classe au cégep, ou au travail, ou autour de la table de la famille dans la salle de dîner, ils sont tous sans excuse. Sans excuse. Ainsi, ceux qui choisissent de les croire, ou ceux qui évitent le sujet au complet sous la guise de l'ignorance ou l'indifférence, ceux qu'on appelle l'agnosticisme. L'agnostique, c'est lui qui dit, ben, je ne vais pas en parler parce qu'il est impossible de savoir oui ou non, alors je suis indifférent. L'agnosticisme, c'est tout simplement l'athéisme paresseux. Il ne veut même pas en discuter puis faire un argument, mais il refuse quand même de croire. Alors, eux sont sans excuses également. Tous sont sans excuses. Devant la richesse des preuves de l'existence de Dieu, la vie, la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Alors, il faut comprendre quelque chose. L'arrivée de Jésus n'a pas été faite en secret. Sa vie n'a pas été vécue en obscurité. Jésus est arrivé d'une façon surnaturelle, entouré d'une multitude de signes, prodiges et miracles, d'une façon très publique, témoigné par des foules, des multitudes même. Jésus est arrivé sur la terre avec signe après signe après signe, jusqu'à la fin, afin qu'il n'ait aucun doute. Et c'est la raison pourquoi Jean a écrit son évangile. Il dit, j'ai écrit ces choses afin que vous voyez que cet homme, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voici tout ce qu'il a fait. En plus, remarquez le discours de Paul quand il se défendait devant le gouverneur romain nommé Festus. Paul, il dit, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Combien sont heureux que la foi chrétienne est crédible, rationnelle et logique. » C'est du gros bon sens. Comment, une bonne main d'applaudissement pour ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, « C'est des choses logiques que je vous enseigne. » Il dit, c'est du bon sens. Puis il dit, toi, tu devrais savoir, toi, tu es instruit de ces choses. Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Il dit, c'est public, ça. Et pour cette raison, nous sommes tous sans excuse pour notre incrédulité devant la richesse des preuves de la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Voici ce que Jésus a dit en Jean 15. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, là, il n'y aura pas de péché. Là, tout le monde aura une excuse. Si je ne suis pas arrivé et je ne peux pas parler, tout le monde aura une excuse. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché, de leur incrédulité. Nous sommes sans excuse parce que Jésus est arrivé et il nous a parlé. Sans excuse. Et Dieu a tout fait pour attester que Jésus est qu'il dit qu'il est. Encore une fois, nous avons juste remarqué les événements autour de la croix et les dernières semaines de la vie de Jésus. Judas était averti jusqu'à la fin, mais a choisi de faire ce qui est fait en trahissant Jésus. Un cohorte de soldats romains, forts et équipés, tombent tous à terre à l'arrestation de Jésus dès que Jésus répond « C'est moi, I am » en anglais. C'était la réponse que Dieu a donnée à Moïse quand il a demandé « C'est quoi ton nom? Je suis qui je suis, I am. » Et quand Jésus a dit « Je suis » et les soldats ont reçu une flash de la majesté, la puissance et la divinité de Dieu, c'était Dieu devant eux et ils ont tous tombé, ces hommes forts ont tombé à terre devant le « Je suis qui je suis », la divinité de Jésus-Christ. Chacun de ces soldats-là était sans excuse pour arrêter Jésus parce qu'ils ont vu une flash de sa divinité. Pilate a été averti par son épouse qui a eu un rêve. Il a peut-être lavé ses mains, mais il est coupable de ses actions, car il a choisi de remettre Jésus entre les mains de ses ennemis, justement après avoir été averti. À la mort de Jésus, la terre tremble et le ciel se noircisse. Le rideau qui cachait le Saint des Saints dans le temple est déchiré en deux, d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. C'était la main de Dieu. Plusieurs saints ressuscitent. Et trois jours plus tard, le tombeau est vide. Jésus se présente à des centaines de personnes pendant 40 jours. Rien de ce que Jésus a dit et fait est caché dans un coin. Jésus n'est pas arrivé d'une façon ambiguë, obscure et mystérieuse, sans attirer l'attention. Il est arrivé au son de la trompette, d'une façon parlée, en public, devant la foule, pendant 3 ans, avec signes, prodiges, miracles, pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et tout cela a été bien documenté et d'une façon minutieuse, copié, préservé et transmis avec soin, afin que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Comment il est le Fils de Dieu? C'est documenté, c'est crédible. Et en plus, nous avons le témoignage des apôtres, les évangiles, les épîtres, le témoignage des pères de l'Église, ainsi que l'Église même, la communauté des vies transformées qui existe depuis 2000 ans maintenant. Et pour toutes ces raisons, nous sommes sans excuse. Dû à la masse d'évidence de la divinité de la résurrection de Jésus, la crédibilité des Écritures, ainsi que la masse de signes et preuves de l'existence de Dieu visible dans sa création. Dieu a tout fait pour se révéler. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en Romains 1? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc sans excuse. L'apôtre Paul le dit aussi. Contraire à la pensée populaire aujourd'hui où presque tout le monde est une victime et qui a une excuse pour ses actions, la Bible enseigne que nous sommes sans excuse. Dû à l'arrivée de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, dû au témoignage de la Bible, l'annonce de l'arrivée de Christ dans l'Ancien Testament, les centaines de prophéties sur sa naissance, sa vie, sa mort. Et dû au témoignage de la création, vous pensez que tout cela est arrivé par accident, par l'évolution de microbes sur le bord d'une plage, comme je dis souvent, « Come on, man! » Comment répéter après moi, « Come on, man! » T'es pas sérieux. De toute façon, on dit, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Tout ça... par l'évolution, come on, man. Quelqu'un a déjà dit, les arguments, les débats pour prouver ou réprouver l'existence de Dieu est comme pointer une lampe à poche vers le ciel pour voir si le soleil brille. Serrez votre lampe à poche et regarde autour. Et c'est la même chose sur les discussions, est-ce que Dieu existe? Regarde autour, Dieu brille partout par la magnificence de sa création. On est sans excuse pour croire des mensonges, même le mensonge de l'évolution. Je reçois souvent la question, Pasteur Mark, pourquoi que les gens croient à l'évolution malgré toutes ces failles? Puis ça, c'est une bonne question. Comme nous disons en anglais, this theory has so many holes in it, you could drive a bus through it. Cette théorie de l'évolution a tellement de trous et de failles qu'on pourrait conduire un autobus à travers. Mais pourquoi que les gens le croient d'abord? Parce qu'elle est la théorie la plus acceptable socialement et culturellement. C'est la meilleure option pour ceux qui ne veulent pas croire la vérité de la création et un créateur comme décrit dans la Bible à aucun prix. L'évolution donne aux gens un moyen respectable pour expliquer la merveille de la création, malgré que ça prend une plus grande foi de croire que tout cela est arrivé par accident que de croire en Dieu le créateur. J'ai déjà parlé des 3 dilemmes incompréhensibles pour les évolutionnistes. Le cerveau, l'œil et la sexualité. 3 éléments difficiles à expliquer par la théorie de l'évolution, même selon les darwinistes et les athées. Steven Pinker a dit, « Virtuellement rien n'est connu à propos du fonctionnement des microcircuits du cerveau et l'expérimentation subjective propre à chacun ne s'explique pas par la science. Le cerveau est tellement merveilleux, fantastique, brillant, impossible d'expliquer juste par sélection naturelle. » Charles Darwin lui-même au sujet de l'œil. J'admets volontiers que supposer que l'œil, avec toutes ses inimitables fonctions qui lui permettent de se focaliser selon différentes distances, de recevoir une intensité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques ou chromatiques, a été formé selon la sélection naturelle, peut apparaître absurde au plus haut niveau. C'est trop fantastique, l'œil. John Maddox, éditeur émérite de magazine Nature, dit ceci. La grande question est de savoir quand et comment la reproduction sexuelle s'est développée. Malgré des siècles de spéculation, nous ne le savons toujours pas en parlant de la sexualité. Pensez à la sexualité pour un instant. OK, c'est assez. C'est assez. Ouh, Pasteur Marc nous donne la permission de... Non. Dans le contexte. Pensez à la sexualité pour un instant. Il faut se demander comment et pourquoi avons-nous passé de l'évolution à la reproduction? Ils ne sont jamais capables d'expliquer ça. À quel moment et comment que tout d'un coup, avec le temps, on évolue d'un être humain en mâle et femelle avec tout ce qu'il faut physiquement pour reproduire, mais aussi avec les attirances, les sentiments romantiques et les émotions qui accompagnent la sexualité. Pour citer théologien Michael Novak, lorsque le sexe est imprégné d'amour quotidien, d'amitié et de fidélité, c'est une sphère merveilleuse de la vie humaine. On imagine même les anges en train de danser avec peut-être un point d'envie. Chaque jour est un printemps et tous les hommes disent... Ça, c'est la théologie profonde, ça. Parmi les grandes preuves de l'existence de Dieu est le fait que l'homme est créé non pas le résultat d'un accident biologique, mais quand on voit l'homme créé en l'image de Dieu, les complexités du corps, mais aussi la nature sentimentale, créatrice, sexuelle, spirituelle de l'homme, quand on voit la beauté, l'imagination, la créativité, la musique, les arts, la capacité créative, l'intelligence, le jugement, l'amour, la compréhension, tous des signes de Dieu, toutes les empreintes de ses doigts sur la création. Mais il y a quand même des personnes qui veulent croire que tout cela est arrivé d'une soupe cosmique, un microbe sur le bord d'une plage, que la main d'un créateur divin, car sans admettre, à quelque part, ils détestent Dieu et tout ce qu'il représente. Puis ils sont sans excuse. Sans excuse. Dieu, la Bible, Jésus, Paul dit la même chose. Sans excuse. Parce que Dieu s'est révélé. Sans excuse pour ne pas croire. Pasteur Marc, pourquoi nous dire tout ça? Pourquoi nous dire un dimanche matin que nous sommes entourés des haïsseurs de Dieu et des moqueurs de Jésus, des personnes qui nous détestent? Pourquoi tu nous dis ça? Pour nous décourager? Non, pas du tout. Au contraire. Je vous dis tout cela pour que vous soyez heureux. Est-ce que ça marche? OK, pas encore. We're not finished. Non, on dit ça pour que vous soyez heureux. Écoutez les paroles de Jésus, Luc 6. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Heureux, béni, heureux. C'est Jésus qui dit ça. Lorsque vous êtes haï à cause du Fils de l'homme, heureux. Puis il continue, Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous ouragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit, sautez d'allégresse. Si vous persévérez, si vous continuez et vous gardez votre fidélité et votre confiance dans le Seigneur, malgré les attaques, le moquerie, le ridicule, le rejet, heureux serez-vous parce qu'il y a une récompense qui vous attend, la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne soyez pas découragés, sautez d'allégresse, réjouissez-vous, il y a une récompense qui m'attend si je demeure fidèle malgré le contexte. C'est pas Pasteur Marc qui dit ça, c'est Jésus. Il dit, ne soyez pas surpris, Jésus dit, ouragé, choqué, attristé, découragé par ce que je vous dis et par tout ce que vous voyez, entendez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, Jean, encore une fois? Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Jésus a vécu la même chose, il a entendu les mêmes paroles pendant qu'il était pendu sur la croix, par amour pour nous, pour porter nos péchés, notre condamnation. Jésus, plein de sang et sueur, souffrant et mourant, le plus grand emblème de l'amour de l'histoire. Et les gens autour sont inconscients, quelques-uns sont indifférents, il y en a d'autres qui sont coloriques, il y en a d'autres qui l'insultent et blessent. Ça, c'est arrivé à Jésus, ça va nous arriver, mais ne soyez pas découragés ni surpris, ne vous étonnez pas. Tenez-vous ferme. 2 Pierre 2, dans un contexte de faux pasteurs, enseignants, faux prophètes, moqueurs, incrédules, des haïsseurs de Dieu, qui se moquaient de retour de Jésus et tout. Lisez-le à la maison, 2 Pierre 2. Mais dans ce contexte-là, voici ce que l'apôtre Pierre a dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fait venir le déluge sur un monde impie, Si la condamnée à la destruction est réduite ensemble les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et si la délivrée le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ses hommes sans frein dans leur dissolution, le Seigneur sait, il est capable, ne sous-estimez jamais, il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, qu'est-ce que Pierre nous enseigne? Dieu est capable de juger. Il l'a fait dans le passé et il fera encore. Ne sous-estimez jamais sa capacité de le faire. Mais il est aussi capable de fortifier, garder, délivrer et préserver les justes, son peuple dans les jours difficiles. Il l'a fait dans le passé, puis il va le faire encore en 2017. Comment, une bonne main d'applaudissement. Dieu est capable! Dieu est capable de me fortifier, me garder, m'encourager, m'aider. C'est ce que Pierre nous enseigne. Alors, quoi faire? Quoi faire, Pasteur Marc? Quoi faire quand nous faisons face au ridicule, l'incrédulité, des attaques sur notre foi, le mensonge, la persécution, le rejet de notre témoignage, la moquerie, la condescendance? Quoi faire? Quoi faire quand on fait face à ces choses-là? Well, d'abord, réjouissez-vous! C'est la première chose que Jésus nous dit. Réjouissez-vous, saute d'allégresse. Deuxième chose à faire, priez, priez. Ne soyez pas en colère contre les haïsseurs de Dieu, les moqueurs, les obstinants, les défiants qui crachent dans le visage de Dieu et suivent leurs propres lois et les lois de Dieu. Priez pour eux. Ils ne savent ce qu'ils font et ce qui les attend. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix devant toutes les personnes qui blessaient, l'insultaient, se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il a prié à son Père de les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors ne soyez pas choqués, mais priez pour ces personnes. Priez. Troisième chose à faire, continuez à témoigner. Continuez avec votre foi. Continuez à parler de Jésus. Continuez à témoigner avec vos actions et vos vies. Ne baissez jamais les bras. Car malgré les haïsseurs de Dieu, ceux qui attaquent l'Évangile, qui cherchent à éliminer Dieu et sa parole, qui bloquent leurs oreilles, qui décident de croire un mensonge, il y a toujours une personne, la personne, parmi les attaques, les détesteurs, les moqueurs, les incrédules, qui observe, qui entend et qui est prêt, mûr, et nous vivons pour elle, pour lui. Nous témoignons pour cette personne. Cette personne. La raison pour laquelle nous continuons à prier, prêcher, servir et témoigner, on ne baisse jamais les bras, on ne se décourage pas, parce qu'il y en a toujours un, comme qu'on voit encore à la croix. Il y avait deux criminels, mais il y avait un qui, malgré tout ce qui passait autour, il voyait quelque chose en Jésus. On a l'histoire ici. L'un des criminels crucifiés l'injurait, l'insultait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre. Et nous vivons pour le « mais l'autre ». Nous vivons pour la personne qui est là, qui est prête, qui observe et prête à donner sa vie. L'autre criminel le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes. Mais celui n'a rien fait de mal. » Puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Non seulement un criminel, mais même un centenier. Un qui avait attaqué et crucifié Jésus, le centenier, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Nous vivons pour eux, pour le centenier, pour le criminel. Nous vivons et nous témoignons pour la personne que malgré les paroles et les gestes des autres, malgré la cacophonie des athées, le bruit du ridicule, le fléau des mensonges, la voix des moqueurs, nous vivons pour la personne qui voit quelque chose en Jésus, qui comprend qu'il est impossible que cet homme ne soit pas le Fils de Dieu. Tout ce que nous faisons pour lui ou elle, et je crois qu'une multitude de personnes comme ça autour de nous, qui vont un jour bientôt faire comme nous avons fait, et comme des milliards à travers le monde depuis 2000 ans, reconnaître et dire comme le centenier, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il y a une foule qui est là, il y a une multitude, il y a des personnes parmi les God haters, il y a des personnes prêtes à entendre le message, prêtes à faire un choix. Une foule. Puis découragez-vous pas. Si vous avez une bien-aimée, vous avez une fils, un fille, une bien-aimée, une mère, un père, un frère, un époux, une épouse, chaque fois que vous essayez de témoigner, chaque fois que vous parlez de votre foi, la Bible, Jésus, l'Église, ils résistent, parfois ils attaquent, parfois ils se moquent, parfois ils rient. semble être tellement loin, tellement loin, tellement loin. Il ne faut pas se décourager. Il faut juste prier. Il faut juste aimer. Il faut juste continuer, témoigner, prier pour la personne et l'aimer. Il ne faut pas se décourager parce que ça, on a l'impression qu'en Matthieu, quand il parle des deux criminels, il dit les deux se moquaient. Les deux se moquaient de Jésus. Mais à un moment donné, plus tard, on voit qu'il y en a un qui a arrêté de se moquer puis a dit, sais-tu quoi? Tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi. Alors, ne découragez pas pour la personne qui semble être tellement résistant à, puis même à se moquer de votre foi. Si on aime, on est l'exemple, on prie, et il faut croire qu'un jour, même cette personne-là va dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu arrives au ciel, pardonne-moi mes péchés. C'est jamais trop tard, jamais trop loin. Il y a la possibilité pour tout le monde. Ne vous découragez pas. On voit cette histoire à la croix. Un criminel, un centenier, un moqueur, que tout d'un coup, il dit, tu es le Fils de Dieu. Et nous réclamons une multitude de nos fils et nos filles et nos petits enfants qui bientôt vont dire « Jésus est le Fils de Dieu ». Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Puis moi, je crois qu'on peut croire même pour une foule de croyants. Malgré le contexte, malgré l'atmosphère, malgré l'ambiance. Ça nous dit en Marc 3, les pharisiens, puis j'invite les musiciens à s'avancer, les pharisiens sortir. Et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Encore, ils voulaient détruire Jésus. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivait. Et ça m'encourage. Malgré l'opposition féroce, comme aujourd'hui, sois pas découragé. Il y avait la foule malgré l'opposition. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est que 2000 ans plus tard, l'Église est encore là. Les croyants, les suiveurs de Christ, malgré toutes les tentatives d'écraser l'Évangile, discréditer la Bible, ridiculiser la foi, se moquer de Jésus, les chrétiens, nous sommes wise aux tactiques du diable et des God-haters. Vous existez depuis très longtemps, mais rien et personne ne va éteindre notre feu, détruire l'Église et réussir à effacer le témoignage de l'Évangile, non pas en 2007, non pas ici à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Jamais! Nous croyons qu'une grande foule va choisir de suivre le Seigneur malgré l'opposition. Est-ce que vous le croyez? Si oui, donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. C'est possible. La multitude suivait Jésus quand même. Il voulait le détruire, mais il y avait une multitude. Prier, donner, impliquer, aller, témoigner avec foi, courage, joie. Et la quatrième et dernière chose, quand quelqu'un rejette notre témoignage, quand on voit les gens, la condescendance, la moquerie, la résistance, les attaques, les mensonges, il ne faut pas se décourager, il faut se réjouir, il faut prier, il faut témoigner, il ne faut pas baisser les bras. Et en dernier, il faut aime les autres, aimez vos ennemis, aime ceux qui vous maltraitent, aime ceux qui attaquent, aime les personne comme Jésus aimait. Il faut avoir toujours la grâce, toujours l'amour. Le Seigneur nous appelle à aimer ces personnes avec l'amour de Dieu et aussi aimer Dieu. Aime l'amour. Je vous avais dit que j'étais pour terminer sur l'amour. Hein? Amour. Mais c'est ça. Aimez ces personnes. Ne soyez pas fâchés, choqués, découragés, déprimés, attaqués, méprisés. Non, aimez comme Jésus a aimé, comme Jésus a aimé sur la croix. Dans les pires situations, il y avait quand même l'amour, le pardon, la grâce. Alors nous sommes appelés à aimer, à servir l'humanité, à aimer les Québécois, les Québécoises, à aimer nos familles, à aimer tout le monde. Et l'expression de l'amour de Dieu, aimer de tout votre cœur. Aime et aimez Dieu. Aimez Dieu. Il y a tellement de gens qui blessent le cœur de Dieu. Nous voulons être parmi ceux qui bénissent le cœur de Dieu. Il y a tellement des gens qui font du mal à Dieu. Nous voulons faire du bien à Dieu. Je veux aimer Dieu avec mon corps, avec mes pensées, mes émotions, mes passions. Moi, je veux faire du bien à Dieu. Je veux l'aimer dans l'adoration, dans la fidélité, dans le service, dans ma relation avec lui, dans mon témoignage et mes actions. There's a lot of God haters. I want to be a God lover. Je veux être quelqu'un qui aime Dieu. J'aime Dieu. Je suis fier de Dieu, fier de la croyance, l'Évangile, la parole de Dieu. Moi, je suis fier de Jésus-Christ. Je veux t'aimer, Seigneur. Je t'aime. Que tout le monde t'haïsse. Moi, je vais t'aimer. Combien de personnes ici aiment le Seigneur? How many God lovers do we have this morning? Ceux qui aiment le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, levez-vous debout et donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Seigneur, cette salle est remplie de personnes qui t'aiment. We're God lovers. Nous aimons, Seigneur. Nous sommes fiers de toi. On va aimer, on va s'engager à aimer, on va prier, on va témoigner, on va se réjouir. On t'aime, Seigneur. Comment tous ensemble qu'on peut faire exactement ce que Jésus nous a demandé de faire. Il a dit, sautez d'allégresse, réjouissez-vous, peu importe le contexte. Il ne faut pas baisser les bras, ni la tête, et décourager. Réjouissez-vous, Jésus est vivant. Il y a une récompense qui nous attend. Comment, chantez-le. Moment de réjouissance en terminant ce matin. Partout dans la parole, il y a des prophéties que dans les derniers jours, ça va être encore pire. L'intensité de persécution et l'injustice et des attaques, des esprits démoniaques, des esprits séducteurs, des mensonges, des démons, les attaques, la moquerie va être juste de pire en pire. Alors, il faut être prêt et préparé pour cela. Et n'oublie pas, hein? Réjouissez-vous, priez, continuez à témoigner. Et aimer. Aimer les uns les autres et aimer Dieu. Ça va, le combat va s'intensifier, mais aussi notre résolution va s'intensifier à faire ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Réjouissez-vous dans le Seigneur